Le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Regarde vers le ciel ». Dans Genèse, chapitre 15 et verset 1er, il est écrit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel. » Et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Amen. Amen. On a toujours tendance, naturellement, à regarder vers ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, ou les difficultés, les problèmes. Et c'est un petit peu un travers humain que nous avons. Nous voyons plus facilement les défauts que les qualités. Nous voyons plus souvent ce qui va mal que ce qui va bien. Nous voyons plus souvent les impossibilités que les possibilités. Et cela, c'est vrai pour tout le monde en général. Et quand on est confronté à une situation, on imagine souvent le pire ou les catastrophes qui pourraient survenir. Et j'ai même rencontré certains qui étaient devenus des spécialistes du défaitisme. Et à chaque fois, ils peuvent vous expliquer toutes les bonnes raisons pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Ils se sont spécialisés, comme il y en a qui se spécialisent dans un métier, et c'est devenu chez eux une manière de vivre, de s'exprimer, et c'est quelque chose qu'il nous faut veiller en tant que chrétiens, parce que Dieu nous appelle à changer de regard. On a un regard naturel, on voit les difficultés, on voit les problèmes qui nous entourent, mais nous devons apprendre à dépasser ce regard-là pour voir du regard de Dieu. C'est un petit peu l'expérience d'Abraham qu'on va voir dans ce passage, où il a dû dépasser sa vision naturelle des choses pour apprendre à regarder dans une autre direction, regarder en haut, regarder vers le ciel. Un jour, il y a un animateur d'école du dimanche qui a fait une expérience avec ses enfants, la classe dont il s'occupait. Il a apporté dans sa classe une grande feuille de papier blanc avec un petit point noir au milieu. Et il a demandé aux enfants qui étaient autour de la table, « Qu'est-ce que vous voyez, les enfants ?» Et tous, ils ont vu le point noir. Et immanquablement, nous sommes orientés à voir la petite faille, la petite difficulté. C'est ce que Jésus exprime quand il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Et ainsi, notre regard a besoin d'être transformé, avoir une autre vision, une autre perspective. Une autre illustration pourrait être celle où nous nous trouvons au pied d'une montagne. Et lorsque nous sommes au pied d'une montagne, nous regardons vers le sommet et nous disons « mais elle est vraiment infranchissable, nous ne pourrons jamais dépasser cette montagne ». Mais si simplement nous prenions l'avion et que nous la voyons dans une autre perspective, nous la voyons du ciel vers la terre, nous la voyons beaucoup plus petite, nous voyons que nous pourrions passer par-dessus, mais parce que nous avons une autre vision, c'est une autre perspective. C'est un petit peu la différence entre ce que nous voyons sur terre, la montagne vue d'en bas, elle paraît infranchissable, mais la vision céleste, la vision de Dieu, eh bien, Dieu nous dit, mais tout est possible à celui qui croit. C'est la vision spirituelle, c'est la vision céleste qu'Abraham va devoir passer de sa vision terrestre. Donc, c'est impossible, je ne pourrai jamais avoir d'enfant, il va falloir trouver une autre solution. Et il va falloir qu'il arrive à la vision céleste où Dieu dit « Si, c'est possible, tu auras une descendance et l'héritier viendra de toi et de Sarah. » Alors, le premier point que je vois dans ce texte, c'est Abraham va découvrir une nouvelle révélation de Dieu. D'abord, Dieu parle à Abraham, son serviteur. Et quand Dieu nous parle, nous devons être attentifs. On a un exemple dans l'Ancien Testament, avec le jeune Samuel qui était élevé dans le temple de Dieu. Et sa mère, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a prié. Samuel, c'est le fruit du miracle. Il est né et sa mère avait dit, si J'ai un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Et donc son premier-né, parce qu'après elle a eu d'autres enfants, son premier-né, elle l'a consacré à l'Éternel et il est resté au temple et il a été éduqué par Élie, le sacrificateur. Et à un moment donné, il a commencé à entendre la voix de Dieu. Et chaque parole de Dieu est importante et c'est vrai pour nous ce matin. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et à un moment donné, la Bible dit, au chapitre 3 et au verset 19 de 1 Samuel, que l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Les paroles de Dieu sont importantes, alors nous ne devons pas les laisser tomber à terre. La parole de Dieu pour Abraham était importante. Pourquoi ? Il avait besoin d'être réconforté. Et peut-être quelqu'un est venu ce matin, il a besoin d'être fortifié, d'être renouvelé, d'être réconforté, parce que la situation était difficile. Parce qu'Abraham avait quitté son pays, il avait quitté sa patrie, pour aller dans le pays que Dieu lui a montré. Mais entre-temps, il s'est arrêté à Charan, son père est mort. Il a déjà perdu son père dans le voyage. Il a continué le chemin, mais lorsqu'il arrive dans le pays, la Bible dit que les Cananéens étaient dans le pays. Pourtant, Dieu lui a donné le pays, mais le pays est habité. Et tout cela, c'est des contrariétés, ce n'est pas tout à fait comme il avait imaginé. Et enfin, un peu plus tard, c'est une tension qui arrive avec son propre neveu Lot. Lot, qu'il avait emmené avec lui, du pays d'Ur en Chaldée, qui avait poursuivi après Charan, il n'était pas resté à Charan, il était de ceux qui étaient allés dans le pays de Canaan. Mais à nouveau, après avoir perdu son père, maintenant il est séparé de son neveu. Mais il faut se rappeler que son neveu, pour Abraham, c'était quelqu'un quand même de sa famille proche et potentiellement, c'était un successeur, c'était un, entre guillemets, un héritier potentiel. Donc, en perdant Lot, il perd encore une possibilité pour lui dans son esprit que Dieu accomplisse sa promesse peut-être par Lot. Donc, il va se rabattre sur une autre solution, celle d'Éliézer. Mais dans toutes les situations qu'il traverse, on voit que les difficultés se sont accumulées. Et ça, ça nous parle de notre vie, de tous les jours. On a des contretemps, on a peut-être des personnes qui nous ont abandonnés, on a peut-être dû quitter d'autres personnes pour suivre le Seigneur. Tout cela, ça nous parle de notre propre vie. Mais si nous nous chargeons de tous ces soucis, imaginez qu'Abraham, il se soit chargé de tous les soucis qu'il a eus depuis qu'il a quitté Ur, avec son père, avec la séparation de Lot, avec les combats qu'il a menés pour récupérer Lot, etc., eh bien, il y aurait de quoi être abattu. Et nous ne sommes pas faits pour porter beaucoup de soucis. Nous n'avons pas tellement de force. La Bible dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » La pression va produire la dépression. Trop de pression, eh bien, ça nous accable, et alors on ne sait pas comment on va s'en sortir. Jésus nous parle de l'inquiétude et il nous recommande de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. L'inquiétude, c'est un phénomène qui nous détruit de l'intérieur. Jésus a expliqué que qui de vous, par ses inquiétudes, pourrait ajouter une coudée, c'est-à-dire 50 cm à sa propre vie. Et si nos inquiétudes pouvaient nous procurer 50 cm de plus, certainement qu'avec toutes les inquiétudes que nous avons, certains dépasseraient les 3 mètres de haut, tellement nous aurions des inquiétudes. Alors c'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Faites confiance à Dieu. Dieu lui dit trois choses à Abraham. La première, ne crains point. Ne crains point parce que la peur est attachée au cœur de l'homme et nous avons peur souvent de l'inconnu, nous avons peur de ce qui va se passer demain, nous avons peur des angoisses comme la mort, comme la maladie, comme la peur d'être enfermé dans une pièce, claustrophobie, la peur du vide, toutes sortes de peurs qui nous animent, des angoisses. Mais une des plus grandes peurs que nous avons, c'est la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête? Ça vient peut-être de nos ancêtres, les Gaulois, qui avaient toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, cette peur, nous l'avons en nous, et on pense à quel problème va survenir, quelle crise va encore survenir, quelles difficultés financières, et la retraite, comment on va faire, etc. Et même certains se chargent des problèmes de la planète Terre avec les réchauffements climatiques et tout ce que ça va engendrer, tous les problèmes, et il n'y a pas de solution. Et puis, les plus grands champions de l'inquiétude, ce sont ceux qui imaginent les problèmes qui pourraient survenir, mais qui n'existent pas encore. Ça, c'est les plus forts. Et nous sommes de cette partie-là. Et nous imaginons, et si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va encore nous arriver de pire? Et ce n'est pas des problèmes qui existent, c'est potentiellement des problèmes qui pourraient survenir, mais au cas où, on s'inquiète quand même pour des choses qui n'existent pas encore, parce que notre nature est angoissée, notre nature est inquiète. Alors que nous dit Jésus? Regardez les lys des champs. Alors c'est vrai qu'à Toulouse, il faut aller un petit peu plus loin que le bitume. Mais regardez la création, regardez la nature. Jésus dit, levez les yeux, regardez les oiseaux du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire détacher votre regard.